à tous. Jérôme Vandamme, je représente ici l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes, autrement dit la fédération sur notre territoire du MEDEF et de la CGPME, autrement dit le monde patronal pour faire court. Donc j'ai été ravi d'un certain nombre d'interventions qui ont fait référence, je dirais, au rapprochement nécessaire et utile entre le monde de l'entreprise, dite classique, et le monde de l'économie sociale et solidaire. Bon, nous, ça fait un certain nombre de temps qu'à travers nos adhérents, puisque un grand nombre des entreprises du secteur, ou même d'associations, sont adhérentes d'ores et déjà depuis des années du monde patronal. Je ne parlerai pas seulement du secteur coopératif bancaire, mais des fondations, des associations. Et donc on a les mêmes préoccupations, et je pense que le monde de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui se rapproche sur beaucoup de choses. J'ai entendu parler M. Germain des problèmes de coût salarial, des problèmes de marge, des problèmes de marché, des problèmes de commercialisation, des problèmes de marketing. Et donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des rapprochements nécessaires, utiles et souhaitables. Alors au-delà de ça, si vous voulez, moi j'ai un certain nombre de questions à poser aux intervenants. J'ai vu que M. Harel, dans son dossier de présentation du comité d'expansion, avait comme adhérent, je crois, des représentants du monde consulaire et du monde patronal. Donc, c'est ce qui m'a semblé lire dans sa fiche. Donc ma première question était de savoir quels étaient-ils et comment ils étaient arrivés, j'imagine, à travers le bassin d'emploi sans doute, à travailler au PTCE. Ça, c'est une première question. Et puis j'ai une deuxième question, c'est aux intervenants et aux intervenants de la table ronde, c'est à leur avis, quelles étaient les pistes de travail communes, de réflexion, de rapprochement qui étaient souhaitables et envisageables très concrètement avec les entreprises de leur territoire.
Fabien Rel, on va peut-être commencer du coup par vous. Vous pouvez répondre aux deux questions, et puis après peut-être un autre intervenant voudra répondre.
Oui, donc effectivement, la constitution même du CBE inclut le monde de l'entreprise marchande. Donc on a, depuis la dernière Assemblée Générale, on a intégré une SAS qu'on a accompagnée dans son activité, sa création d'activité dans les Hautes-Alpes, qui fait de la deuxième transformation de chanvre, et qui va donc produire des isolants biosourcés à partir de la ressource locale. Donc cette entreprise est créée, elle est SAS, et elle fait partie intégrante du conseil d'administration du comité d'expansion aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, les acteurs consulaires sont, je dirais, naturellement au sein du CA, du comité d'expansion. Je ne dis pas qu'ils sont là tous les CA, hein, pour être tout à fait clair. C'est plus en mode projet, justement, qu'on arrive à les intégrer. Dès lors qu'il s'agit d'accompagner la création d'une entreprise particulière ou développer une filière agricole en particulier, ou les métiers en lien avec l'artisanat, là effectivement on arrive à les intégrer, mais sur la réflexion globale du développement économique, on a une assiduité qui n'est pas forcément aussi bonne que ce que j'espère. Ensuite, l'UPE chez nous, c'est l'Union pour l'entreprise, hein, donc qui est représentée notamment par un distributeur de matériaux. En fait, il se trouve que c'est un distributeur de matériaux qui représente l'UPE chez nous, et donc qui est un des soutiens actifs à la dynamique du PTCE. Ouais, tout à fait.
Mathieu Barois, qui voulait répondre également.
Oui, donc moi, la question, ce n'est pas pour me poser, parce que nous, on a considéré qu'on était entrepreneur. Donc, moi, j'ai un métier de consultant au départ. Enfin, je suis toujours consultant, d'ailleurs. Donc, la question ne s'est jamais posée dans ces termes. Bon, j'ai été aussi, pendant 8 ans, président du comité bassin d'emploi du Pays d'Alpes. Donc, cette culture aussi d'associer l'ensemble des entreprises. Et que ce soit dans l'association aujourd'hui, dans la SIC, il y a toujours eu les entreprises. Moi, pour l'UP 84, à un moment, j'étais représentant du CLE, du comité de liaison école entreprise, mais voilà, après on m'a demandé de rentrer dans la structure patronale. Bon, moi c'est vrai, je suis aussi engagé dans les structures de l'économie sociale et solidaire, et donc à un moment il y a simplement une vision, une pratique personnelle qui fait qu'on est dans des organisations et pas dans d'autres, mais bon, on n'a jamais eu de problème de par rapport à des entreprises classiques, hein. Je siège aussi au conseil économique et social avec l'union patronale, donc la question ne s'est jamais posée comme ça en tant que chef d'entreprise.
Vous n'y voyez pas d'antinomie? Dominique Blanc, vous à l'autre boutique aussi, oui, votre rapport avec les entreprises. Ouais.
Pour rejoindre ce que vous venez de dire, nous on se sent aussi des entrepreneurs et des entreprises. On a des salariés, on a des conseils d'administration, on a des charges, effectivement. Et dans le collectif, donc qui est dans la gouvernance de la boutique et dans les fournisseurs de la boutique. Il y a des entreprises, il y a même des créateurs d'entreprises, hein, puisque la couveuse d'entreprise est partenaire, un des cinq partenaires. Donc la question, elle se pose qu'à travers la charte qui a été construite entre nous et qui définit un certain nombre de critères. Et on ne se pose pas la question de savoir si on est des associations, des scopes, des entreprises, je ne sais même, on ne sait plus comment dire. Parce que de toute façon, on ne se pose plus la question à nos niveaux de dire il y a des entreprises d'un côté et il y a je ne sais pas quoi de l'autre. Il y a très certainement, comme on le disait tout à l'heure, un modèle hybride qui s'est créé et qu'il ne faut surtout pas lâcher parce que c'est par là qu'on va y arriver.
Et puis c'est aussi ce que reconnaît la récente loi, c'est voilà, sortir des formes d'organisation pour aller vraiment vers un esprit et ESS. Est-ce qu'il y a on a répondu à votre question, monsieur ? Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question dans la salle ? Monsieur Catucoli.
C'était juste une question, peut-être que je n'ai pas suivi dès le début. Je voulais connaître les statuts juridiques du comité d'expansion et d'où vient le terme expansion ? Parce que c'est un terme qui était utilisé dans les années 75 par les comités d'expansion de promotion agricole et agroalimentaire et je suis originaire de ce secteur, c'est pour ça. Voilà, simple.
Fabien Harel.
Pardon. On est bien ici. C'est une siège éjectable. C'est normal, c'est pour les assos. En fait, statut associatif et comité d'expansion, en fait, il a été créé parce que à une époque, il n'y avait pas d'outils pour faire la promotion du territoire. Ça c'est.
Quelle année, s'il vous plaît, la création ?
Alors, existence de l'association depuis 82 et dénomination comité d'expansion depuis 99. Et ensuite, le Conseil général a mis en place son propre comité d'expansion qui s'appelait Hautes-Alpes Développement, là, qui est en train de se restructurer pour faire la promotion exogène du territoire. Mais nous, on est bien aujourd'hui sur une fonction de développement endogène et d'appui à l'innovation, quoi, au sens large.
Une autre intervention, question ? Juste à côté, Anne-Laure. Juste à côté de M. Caïtucoli.
Oui, c'est pour Mathieu Barraud.
Monsieur Henri.
Je trouve que c'est très symptomatique ce qui s'est passé avec OCRA, si j'ai bien suivi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un groupe de gens qui sont partis d'une idée, et puis il y en a d'autres qui sont venus rejoindre l'idée, et puis il y en a encore d'autres, et au final, on ne sait plus trop comment ça s'appelle, ni comment ça doit fonctionner, donc c'est du boulot pour des juristes, mais le résultat, c'est que ça fonctionne. Voilà. J'imagine que l'appel à l'imagination, la volonté des uns et des autres, ça donne ça, et je trouve que c'est pas mal. Donc c'est pas une question, mais
c'est bien, ça vous donne l'occasion de répondre. Ça fonctionne au CRAS.
Non, mais donc ça fonctionne, mais pas sans difficulté. Vous avez compris, c'est que non. En plus, on bénéficie le fait qu'on travaille dans la couleur. On a l'impression qu'il fait beau, Roussillon, c'est super, donc tout va bien. Non, ça va pas bien. Donc ça veut dire qu'il faut toujours se réinterroger partenaire. Mais on sent aussi qu'il y a une vraie, aujourd'hui, sur les 250 coopérateurs, on sent un vrai soutien. Et aujourd'hui, il y a des choses que je fais aujourd'hui en tant que coopérative que je n'aurais jamais fait en tant qu'association. Hein, c'est par exemple, aujourd'hui, il y a des coopérateurs bénévoles qui participent au chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils font des visites, par exemple. Moi, on ne l'aurait jamais fait, je ne l'aurais jamais fait en tant qu'association. Parce qu'après, c'est la question là, entre est-ce qu'un bénévole peut faire une fonction d'un salarié ? Dans le cadre d'une coopérative d'intérêt collectif, la réalité de la coopérative n'est pas que la réalité du chiffre d'affaires réalisé par les salariés. Donc toute la difficulté aujourd'hui, on ne sait pas faire. C'est quoi le périmètre économique d'une coopérative d'intérêt collectif ? Est-ce que c'est uniquement le chiffre d'affaires qu'on dégage ? C'est comme ça qu'on nous lit, on ne sait pas lire autrement. Ou est-ce que le fait d'avoir des sociétaires qui sont des fournisseurs, qui sont en même temps des prestataires, ça... On contribue aussi à les faire vivre. Ils sont aussi sociétaires. Donc, tout c'est des vraies questions. Et aujourd'hui, on ne sait pas répondre. Donc, c'est aussi s'interroger et s'interroger collectivement pour les nouveaux problèmes à affronter.
Là, j'imagine que Dominique Blanc voulait réagir là-dessus, sur les sociétaires, les salariés qui sont aussi les bénéficiaires de l'action. C'est quelque chose qui est très important dans l'ESS.
C'est sûr que sur toutes les entreprises de l'insertion par l'activité économique, la structure existe. Pour les salariés, ça c'est plus que sûr. La partie intéressante dans ce nouveau chantier là qui a donc été créé seulement cette année, c'est qu'on a pu, on fait vraiment du participatif, bien que ça soit un mot un petit peu galbaudé. Ce sont les salariés eux-mêmes qui ont inventé tous les process de la vente, de la logistique. C'est même eux. On a acheté un logiciel open source pour la caisse, le terminal de vente, etc. Ce sont eux qui ont construit tout ça. Ce sont eux qui construisent le site internet. Ce sont eux qui font les animations autour des produits pour ceux qui ont besoin de spiruline de grâce, passer à la boutique. Elle est cultivée chez nous. Ils ont acquis une connaissance de tous les produits qui est après transférable, effectivement, tous les produits, tous les métiers de la vente et du commerce ou de l'animation. Donc oui, c'est sûr que le salarié va être au centre, d'où l'importance aussi du lien qu'ils ont avec les fournisseurs, avec les créateurs d'entreprises, avec, comme on le disait tout à l'heure, les autres partenaires.
Merci. Une autre intervention.
Oui, deux questions. Une à Valérie Tétu. Est-ce que dans votre fonction, qui est quand même assez rare, hein, d'avoir un chargé de mission ESS dans une communauté d'agglos, je sais qu'il y en a d'autres, mais bon, vous l'êtes, est-ce que vous avez l'impression justement de faire de la régulation économique au sein du secteur? Donc ça, c'est première question pour Valérie. Et deuxième question pour Christina. Vous dites on est sous forme de loi 1901. On a bien compris que vous étiez intermédiaire entre des acheteurs et des fournisseurs. Mais vous, en tant qu'association, vous vivez comment? C'est une commission au passage? Puisque vous avez aussi parlé d'autofinancement.
Elle disait sur les adhésions, c'est ça
Non, ce que je veux dire aussi, c'est pas aussi par rapport à la réaction du monsieur du MEDEF tout à l'heure, c'est que on veut bien le secteur associatif, je dirais, sortir de la réparation et aller là où il faut, y compris de changer d'échelle. Mais il faut quand même pas oublier qu'on gère depuis un certain temps, du moins un certain nombre d'entre nous, une association comme une entreprise. Comme une entreprise. Que ce soit de la subvention ou que ce soit de l'insertion par l'activité économique. La différence, c'est que des fois, ben, c'est du financement public à 100%. L'activité par l'insertion par l'IAE, ben, ça peut être du 30% si on est un chantier, ou du 70% si on est entreprise d'insertion. Mais je veux dire qu'on a aussi un certain nombre de savoir-faire en matière de gestion. Je ne suis pas pour que d'office, on jette, entre guillemets, le statut associatif aux oubliettes. C'est pour ça que vous êtes en statut associatif, vous avez fait, vous, un choix, mais je le comprends très bien, de passer à une autre échelle, pour tout un tas de raisons que vous avez bien expliquées. Je connais aussi le statut d'ASIC. J'ai essayé, et quand vous dites c'est complexe, je sais très bien concrètement ce que ça veut dire, sur les enjeux de pouvoir et sur les collèges, hein, entre autres.
Peut-être d'abord, puisqu'on parle d'association, Christina Delgado, et puis ensuite, sur votre autofinancement, on reprend sur ce sujet-là, et ensuite, Valérie Tétu, sur votre rôle et, voilà, au sein de la collectivité.
Donc, je vais vous répondre à deux échelles, d'une le modèle économique de CARES et de deux le modèle économique de l'AMDS. Donc CARES, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, notre modèle économique, il est basé exclusivement, enfin la part d'autofinancement, il est basé exclusivement sur les adhésions. On prend aucune commission sur la vente. Vraiment, c'est pas nous qui vendons, c'est nos fournisseurs derrière. Les adhésions, il y a l'adhésion de la part des fournisseurs. Comme j'ai dit, sur les sites internet, vous savez, sur les dossiers, il y a devenir fournisseur, devenir acheteur, tous les types d'adhésions, les montants, les services, vraiment tout en transparence. Donc, je vous invite à aller voir. Et après, il y a l'adhésion de la part des consommateurs qui, en échange de l'adhésion, ils vont avoir des tarifs préférentiels. Voilà. Donc, ça, c'est la partie d'autofinancement de la MDS. On souhaite qu'au fur et à mesure, on capte de plus en plus d'adhésions, de plus en plus de fournisseurs. Aujourd'hui, on a 25 structures de départements conventionnés avec plus d'une centaine de produits et services proposés sur la plateforme.